Allez, bonsoir messieurs, Erev Tov. Alors pour notre première partie sur la paradacha de la semaine, je vous propose un enseignement qui a été pour moi en tout cas un très très grand chidouche sur l'histoire du Matan Torah. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est exclusivement puisé de chez nos Chachamim. Ce soir, ce sera le Balatourim, qui est un de nos grands commentateurs sur la Torah, du Yalkut Reuveni, ainsi que, on va commencer par la Gemara la plus connue, peut-être une des plus connues, sur l'histoire du Matan Torah. Le Midrash est le suivant. Vaïtiatsevu betarti tahar, amar rabbi avdimi bar chama bar chassa, melamet shekafa akadosh baruchu alehem et tahar kegigit, veamar lahem, imatem ekabelim atora mutav. Le Midrash certainement le plus connu sur le Matan Torah. En fait, ce Midrash se construit sur une anomalie du verset, bien évidemment. Jamais apprendre au sens strict du terme, mais toujours essayer de trouver qu'est-ce qui est caché derrière. Et donc l'anomalie du verset est la suivante. Vaïtiatsevu betarti tahar. Lorsque les enfants d'Israël étaient au pied du mont Sinaï, en réalité, ils n'étaient pas au pied du mont Sinaï. Ils étaient betartit. Ahar. Le mot tartit, ça veut dire en dessous. Du coup, nos chachamim, qui sont confrontés à ce problème de tachat, tartit c'est tachat, tachat c'est en dessous. Donc ils disent, mais comment ça, on est en dessous du mont Sinaï, on est en dessous du mont Sinaï, on est au pied du mont Sinaï, on n'est pas en dessous. Du coup, le midrash rapporté dans la Gemara, donc c'est vraiment un midrash, on va dire, reconnu par nos chachamim dans leur ensemble. On nous dit quoi? On dit, c'est de là que l'on apprend qu'Akadosh Baruch Hu a soulevé, a déraciné le mont Sinaï, et qu'il a utilisé le mont Sinaï pour menacer les enfants d'Israël, en plaçant la montagne au-dessus de leur tête, en leur disant la chose suivante. Si vous acceptez la Torah, mutav, c'est très bien, vous êtes fait pour ça, vous avez été créé pour ça. Mais si vous refusez la Torah, sham tehekevuratrem. Alors là-bas, ça sera votre tombeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël, sa vocation, c'est de recevoir la Torah. Que le monde, la vocation de la création du monde, c'est de recevoir la Torah. Puisque Yom HaShishi, que toute la création a été suspendue au fameux sixième jour. Lequel sixième jour? Le sixième jour du mois de Sivan, lorsque les enfants d'Israël vont accepter la Torah. Et que tout est en suspens, que le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas une acceptation de la Torah, c'est-à-dire tout simplement, non pas de la pratique, mais de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, au sein d'une nation, au sein de l'humanité, avec une nation forte qui proclame l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Si vous n'êtes pas là et que vous refusez cette vocation, alors c'est terminé. Sham tekevuratrem, c'est votre tombeau, c'est terminé, l'histoire est terminée. D'accord, donc, Midrash extrêmement célèbre, d'accord, rapporté par la Gemara. Tosfot, tout aussi célèbre, pose la question connue, qui est la suivante. À quoi bon menacer les enfants d'Israël en leur disant, vous avez intérêt à la recevoir, si vous la recevez pas, vous allez tous mourir ici, etc. À quoi bon les menacer alors qu'on avait déjà accepté? Avant même qu'Akadosh Baruch Hu prenne cette montagne en nous disant « ça va être un drame si vous acceptez pas la Torah ». Dès que Moshe Rabbeinu nous a annoncé qu'on allait recevoir la Torah, on a tout de suite dit « Naase, on fera ». Dans la paracha de Mishpatim, on va dire « Naase venishma ». Parce que je vous rappelle que dans Mishpatim, on a la fin de Yitro, en réalité. Yitro, c'est le Matan Torah. Ouais. Au milieu, il y a toutes les Mishpatim, les lois. Et à la fin, on revient sur l'histoire du don de la Torah. D'accord? Et donc, c'est dans Mishpatim que l'on a l'expression Naase Venishma. Mais cette expression du Naase Venishma, elle se rapporte sur ce qui s'est déjà produit avant, au préalable. Et le préalable, c'est quoi? C'est que quand Moshe s'est adressé aux enfants d'Israël en leur disant « Je vais monter sur le mont Sinaï », etc. Enfin, il leur a raconté toute l'histoire et qu'il y a eu plusieurs allers-retours pour savoir exactement qui dit quoi, etc. Il y a bien un moment où les enfants d'Israël, ils ont dit Naase Venishma. Donc, s'ils ont dit Naase Venishma, on est prêt à accepter. Pourquoi tu veux nous menacer? Pourquoi tu nous dis, ah, si vous n'acceptez pas la Torah, vous allez tous mourir ici? Mais on n'a pas l'intention de ne pas l'accepter, cette Torah. On a déjà dit qu'on veut la Torah. Donc, dit le Tosfot, pose la question Tosfot. À quoi bon menacer les enfants d'Israël avec le mont Sinaï en disant, si vous n'acceptez pas la Torah, vous allez tous mourir ici, je vous lâche la montagne sur la tête, etc. Alors qu'ils ont déjà dit Naase Venishma. Réponse de Tosfot, qui est extrêmement intéressante, même si ce n'est pas le cœur de notre cours. Tosfot nous dit comme ça. Et là, Amar Lahen, à la Torah chez Béalpé, chez Yeshba Dikduke Mitzvot, Kalot Vachamurot. En fait, Tosfot vient nous dire que le fameux Naase Venishma que l'on connaît depuis qu'on est enfant, d'accord, Naase Venishma, c'est le principe général de toute la Torah, même si tu ne comprends pas les choses, il faut quand même les réaliser, etc. Tu comprendras plus tard. ce principe-là, il n'a été dit par les enfants d'Israël que sur la Torah écrite. Uniquement sur les mitzvot écrites dans la Torah, c'est-à-dire les 613 commandements. Point. Mais sur la Torah orale, à aucun moment les enfants d'Israël s'étaient engagés à quoi que ce soit. Toi, Moshe, tu nous dis, je vais monter sur la montagne. Ok, tu vas y faire quoi? Je vais chercher la Torah. C'est quoi la Torah? Eh bien, c'est les 613 commandements, les mitzvot, etc. Les enfants d'Israël, Moshe leur a demandé, vous voulez ou vous voulez pas? Ben, ils ont dit, Naaseh v'nishma, il n'y a aucun problème, bien sûr, ça nous intéresse, c'est bien la révélation divine, etc. Avoir un comportement en adéquation avec la volonté de Dieu, il n'y a aucun problème, on prend. Naaseh v'nishma. Très bien. Mais dit Tosfot, ce Naaseh v'nishma est uniquement sur ce qu'ils pensaient être la Torah. Et ils pensaient que la Torah, c'était uniquement la Torah écrite. Quand je dis Torah écrite, c'est que les 613 commandements. D'accord? Il y a la notion du Shabbat, la notion de Kashrout, etc. C'est très bien. Sur quoi il a fallu menacer les enfants d'Israël en leur disant « Si vous refusez, vous allez tous mourir ici !» C'est donc pas sur la Torah écrite, mais sur la Torah orale. Et pourquoi est-ce que sur la Torah orale, on n'a pas dit directement « Naaseh v'nishma » avec le même élan, le même enthousiasme qu'on a dit sur la Torah écrite? Tosfot nous dit, de manière incroyable, il nous dit « Parce que la Torah orale, elle est beaucoup plus compliquée que la Torah écrite. » C'est dans la Torah orale que l'on a tous les moindres petits détails de la pratique, de la compréhension, etc. Et il nous dit « Vehi azaka mavet » et cette Torah orale, elle est lourde comme la mort. C'est les mots de Tosfot, vous vous rendez compte? La Torah orale, elle est lourde comme la mort parce qu'elle est infinie. C'est tous les commentaires qu'on connaît sur les mitzvot, sur la Torah, sur les Mishnayot, sur la Gemara, qui était à l'oral à l'époque, bien évidemment. D'accord, c'est tout ça, la Torah orale. C'est bien plus complexe que la Torah écrite. La Torah écrite, concrètement, c'est relativement léger. Tu prends un chumash, d'accord, comparé aux chasses de la Gemara, à la halakha, etc. Le chumash, c'est rien du tout. D'accord, c'est une histoire d'un jeu d'enfant. On nous dit, sur la Torah écrite, on était prêt à dire Naaseh v'nishma, on signe à blanc, etc. Vas-y, donne-nous ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais sur l'engagement de la Torah orale, sur ça, à aucun moment on a dit qu'on était OK sur ce truc-là. Et il rajoute Tosfot, chez Kolmi, chez Ohev, Osher, Vetaranoug, Eno Yachol Ilmot Torah chez Béalpé. La Torah orale, elle est tellement dure, tellement sèche d'approche, d'étude, tellement difficile comme la mort, dit Tosfot, et nous dit que tout celui qui aime la richesse, le confort, la délectation de ce monde, ne peuvent pas étudier la Torah orale. La Torah orale, c'est tout ce qui te bouffe tout ton temps. Et il termine, les fiches Yeshba Tsar Gadol Venidouchena. Parce que pour étudier la Torah orale, il y a une grande souffrance, souffrance physique, intellectuelle, de compréhension, s'arracher les fameux cheveux en quatre, couper les cheveux en quatre pour comprendre une Gemara, etc. Vegnidoud Shena, et un manque de sommeil. Parce que c'est des heures et des heures et des heures d'études, et que tous les rabbanim qui sont impliqués dans l'étude de la Torah orale en permanence, eh ben, ils ont des nuits extrêmement courtes où ils dorment à quelques heures et c'est tout, et que le roi David dormait à peine quelques minutes par jour, etc. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Eh ben ça, nous, on n'était pas prêts à l'apprendre, ce truc-là.
C'est pas vendeur.
Hein.
C'est pas vendeur.
Hein. C'est pas vendeur, mais c'est incroyable, vous vous rendez compte, c'est Tosfot. Hein. Tosfot, c'est les mots de Tosfot. D'accord? Et ils nous disent, eh bien, sur ça, il ne fallait pas nous laisser le choix. Parce que si on avait eu le choix, on ne l'aurait pas accepté. Ça ne viendra qu'à l'époque de Pourim, bien plus tard, des siècles plus tard, qu'on acceptera la Torah orale de plein gré. Là où on a dit au Mont Sinaï, bon, si tu nous menaces, alors on l'accepte, on n'a pas le choix. À Pourim, on l'a accepté de plein gré. On a accepté la Torah orale de plein gré à Pourim. Oui, mais là-bas, comment est-ce qu'on voit qu'on a accepté la Torah orale? Elle est où la Torah orale qu'on a acceptée là-bas? Parce que toute l'histoire de Pourim, c'est quoi? C'est la force de la parole des Chachamim, Mordechai et Esther. C'est eux qui ont donné les indications, c'est eux qu'on a écoutés, c'est eux qu'on aurait dû écouter quand ils ont dit de ne pas aller au festin, de ne pas partager le repas de Achashverosh, etc. C'était eux la Torah orale de l'époque. C'est l'oral des Chachamim. Les Chachamim qui viennent te dire ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On ne les a pas écoutés, on l'a regretté amèrement, on a failli y passer à cause de ça. Du coup, on s'est dit, ok, on a compris. La parole des Chachamim, on est prêt à l'écouter. Et donc, on nous dit qu'ils ont accepté à ce moment-là la Torah orale qui était portée par Mordechai et Esther, qui représentaient à ce moment-là ce qu'on appelle nous aujourd'hui la Torah orale, mais dans son sens pur, c'est-à-dire la Torah portée par les Chachamim. C'est ça, la Torah orale. Exactement. Exactement. C'est fou, hein ? C'est bien ce que nous dit la Gemara. Donc, ça c'est déjà, honnêtement, hein, c'est déjà un sujet en soi qu'on peut discuter pendant des heures, etc. Qu'est-ce que ça représente, etc. Bien. On avance pour le cœur de notre cours. Et je vous donne ce fameux enseignement du Baal HaTourim. Et le Baal HaTourim, alors c'est sur la même notion, hein, il détecte, lui, une autre anomalie. La première, c'est celle de la Gemara. On est en dessous de la montagne. Betarti Tahar. Tachatahar. Sous la montagne. Ok, donc on a compris, sous la montagne, ça vient supposer cette idée d'une montagne qui vient nous menacer. Ok, j'ai compris. Mais le Baal HaTourim, il détecte une autre anomalie dans le même verset. Et regardez ce qu'il est écrit. Vaïtiatsevu Betarti Tahar. On était au pied, sous la montagne. Ok. Vehar Sinai, Ashan Kulo. Et la montagne du Sinai était pleine de fumée. Révélation d'Akadosh Baruch Hu, plein de fumée, son et lumière, etc. Plein de choses qui se passent à ce moment-là. Bien. Le Baal HaTourim nous dit, il y a un problème dans ce pasouk, il y a un problème. Il y a une répétition. Il y a une anomalie. Elle est où ? Les enfants d'Israël étaient au pied, Betzarti Tahar, de la montagne. Et le mont Sinaï était plein de fumée.
Et il était plein de fumée.
Ah ! Il n'y a pas écrit « et il était plein de fumée » ou voire même on aurait dû faire les choses différemment. On aurait dû dire « et les enfants d'Israël étaient au pied du mont Sinaï qui étaient plein de fumée ». Mais le truc, c'est qu'il y a écrit « les enfants d'Israël étaient au pied de la montagne et le mont Sinaï était plein de fumée ».
Là, tu sous-entends qu'il y a deux mots.
Le Baal HaTourim nous dit, mais il y a deux montagnes. Si c'était le seul mont Sinaï, alors on aurait dû tout simplement dire, ils étaient au pied du mont Sinaï qui était plein de fumée. Or, il est écrit, ils étaient au pied de la montagne et le mont Sinaï était plein de fumée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec une deuxième montagne? D'où elle sort cette deuxième montagne? C'est quoi ces deux montagnes? Il y a une seule montagne, c'est le mont Sinaï. D'accord, d'où il y a deux montagnes? Réponse du Baal HaTourim à tomber par terre, il nous dit... Hop. Il nous dit Nitla shahar mimekomo venarase kehar algabehar. Il dit la montagne a été déracinée de sa place et on se retrouve à avoir une montagne au-dessus d'une autre montagne. Ouais, disons. Je répète. Nitla shahar mimekomo, la montagne a été déracinée de sa place. Venaase kehar algabehar. Et on se retrouve dans une configuration qui ressemble à une montagne sur une autre montagne. C'est un peu énigmatique, hein, d'accord ? Parce qu'on se dit, attends, je ne comprends pas. Il n'y a qu'une seule montagne. Donc même si tu me dis que la montagne a été déracinée pour nous menacer en disant, si tu ne l'acceptez pas, vous allez tous mourir ici. Ok ? Mais du coup, il n'y a qu'une montagne. Ce n'est pas une montagne sur une autre montagne. C'est une montagne. C'est une montagne qui a été soit renversée sur notre tête, soit soulevée au-dessus de notre tête. Mais c'est qu'une seule montagne. Qu'est-ce que cette histoire-là? La montagne a été déracinée et ça ressemblait à une montagne sur une montagne. Il n'y a pas une montagne sur une montagne. S'il a déraciné le mont Sinaï, il n'y a qu'une seule montagne.
Alors, tu as coupé la montagne en deux.
C'est ça, mais où est-ce qu'on a vu qu'on a coupé le mont Sinaï en deux? Et en plus, il s'appellerait Mont Sinaï, même si c'est que le Mont Sinaï qui a été coupé en deux. Il s'appellerait Mont Sinaï. Pour répondre à cela, le Yalkut Réhouveni, et il dit comme ça, sur la paracha Titro, il dit Bisharat Kabbalat HaTorah, Nereikar Har Amoria, ou va la midbar. Kedeshetinatena Torah al makom ameoulé hazé. Le Yalkut Reuveni nous en donne un chidouche tout aussi incroyable. Il nous dit qu'en réalité, non. Quand il est écrit une montagne sur une montagne, c'est qu'il s'agit de deux montagnes différentes. Et voilà comment il faut comprendre des choses. Au moment du don de la Torah, Hachem a été prendre la montagne du Har Amoria, là où il y a eu le sacrifice d'Yitzhak. Hachem a été chercher le Har Amoria, il a déraciné de sa place et il a juxtaposé au-dessus du mont Sinaï, afin que l'on se retrouve dans une configuration d'une montagne au-dessus d'une montagne. Le Har Amoria au-dessus du Har Sinaï. On fait coïncider les deux. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui lui passerait par la tête? Pour nous dire, pour que la Torah soit donnée au peuple d'Israël sur le mont Moria, là où il y a eu la Akedat Yitzhak. Voilà ce que nous dit le Yalkut Reuveni. Donc c'est une lecture qui est tout à fait nouvelle, d'accord, de nous dire qu'en réalité, la Torah n'a pas été donnée sur le mont Sinaï. Elle a été donnée sur deux montagnes juxtaposées l'une sur l'autre, avec d'un côté le mont Sinaï, plus le Har Amoria, le mont Moria qui était au-dessus. Comment c'est possible? Quoi? C'est toute la montagne qu'il a pris? C'est tout le mont Moria qu'il a été récupéré? Réponse, toujours du Yalkut Reuveni, sur un midrash sur les Tehilim, qui nous dit « Amar Rabbi Yossi, ve Sinaï mehechanba, mehar Amoria nitlash, kechala meisa, mi makom shenekad Yitzhak Avinu, amar Akadosh Baruch Hu, ho'il ve Yitzhak Aviyem neikad alav, na'e levanav lekabel alav et Torah. » Il nous dit comme ça. Il nous dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris tout le mont Moria. Il a fait un prélèvement de la partie supérieure du mont Moria qu'il a été positionné au-dessus du mont Sinaï afin qu'on reçoive la Torah dessus et que ce prélèvement qu'il a effectué ressemble au prélèvement que l'on fait lorsque l'on pétrit de la pâte et qu'on doit faire un prélèvement de chala de la pâte. Eh bien, c'est exactement la même idée. Il y a une pâte, c'est le mont Moria. Eh bien, il y a un truc sacré qui s'est passé sur ce truc-là, puisque Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham de sacrifier son fils. Avraham était prêt à le faire. Yitzhak était OK pour le faire également. Donc, du coup, on a pris de la kedusha de ce mont Moria, une chala. La chala, c'est Kadosh. D'accord? On a pris un prélèvement de ce mont Moria et on a été le positionner au-dessus du mont Sinaï afin que l'on reçoive la Torah là où Avraham a été prêt à sacrifier son fils. Et pour preuve, disent nos maîtres, lorsque l'on lit dans la Torah le passage de la Akedat Yitzhak, et que finalement l'ange intervient auprès d'Abraham en lui disant « Ah, c'est bon Abraham, c'est bon, il ne faut pas le sacrifier, c'était une blague, d'accord, il ne faut pas le faire, il ne faut pas aller jusqu'au bout, etc. » Que dit Abraham? Il va nommer l'endroit. Comment est-ce qu'il va nommer l'endroit? Hachem Yéraé. Que Hachem puisse se révéler à cet endroit. Que Hachem puisse se révéler à cet endroit, il ne parle pas de ce qui s'est déjà passé. Il parle de quelque chose qui arrivera plus tard. Alors nous, notre lecture du Pshat, c'est de se dire, bah, parce que le Har Amoria, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Le temple de Jérusalem sera construit à cet endroit-là. D'accord? Le Har Amoria, c'est Jérusalem. Donc du coup, on nous dit, bah, c'est ça le clin d'œil, c'est que le Beth Amikdash sera construit. C'est ça quand Avraham dit que Dieu se révèle à cet endroit. Mais nos maîtres nous disent, non, on ne parle pas du Beth Amikdash. On parle du Matan Torah. Mais le Matan Torah, ce n'est pas sur Amoria, c'est sur le Har Sinaï. Réponse, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a été chercher l'extrémité supérieure du Har Amoria. Il a juxtaposé sur le Har Sinaï et Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Effectivement, sur le Har Amoria en même temps que sur le Har Sinaï.
Qu'est-ce qui nous dit qu'Abraham sous-entendait que la révélation, ça concerne le peuple?
Parce que la révélation, c'est laquelle à part celle-là?
Le rêve de Jacob.
De quoi?
Avec Moshe.
Quoi, le Moshe?
Avec Moshe, il s'est révélé aussi. Avec...
Ah, ben bien sûr que oui. Mais ce n'est pas la révélation générale.
Il s'est révélé à un homme.
Bien sûr.
Abraham, logiquement, la révélation suivante, ça aurait été à un homme aussi.
T'as raison, mais ce n'est pas le projet d'Abraham. Rappelle-toi qu'Abraham, c'est le collectif. Avraham, il porte en lui la neshama du klal Israël. Donc du coup, quand Avraham dit « Je souhaite qu'Hachem se révèle à cet endroit-là », c'est Avraham qui parle. Avraham qui, lui, a eu une révélation personnelle à ce moment-là, c'est vrai, mais lui, sa vocation, c'est le collectif. C'est Avraham, c'est la neshama collective du clan d'Israël. Donc du coup, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, Moshe, c'est aussi la neshama collective du peuple d'Israël. D'accord ? Donc en réalité, à cet endroit-là, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu qui passe à certains moments par un prat, par un individu, mais en réalité, la vocation, c'est la révélation du collectif. Et donc Avraham, d'après ce pshat, est en train de nous dire, j'espère que ce lieu-là où moi j'ai ressenti la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, je souhaite que ça soit le lieu de la révélation de l'ensemble du peuple d'Israël. Ah ouais, alors quoi, c'est le Beth Amikdash ? Non ! Mieux que le Beth Amikdash, la révélation du Sinaï. La révélation du Sinaï, c'est sur le Haram Moria. C'est complètement fou de dire une chose pareille, parce que ce n'est pas le même endroit. Il y en a un qui est à Jérusalem et un autre qui est dans le désert. Eh bien, en réalité, c'est ça. Nos Chachamim vont nous dire « Vaitiatsebu betartita har » Vehar Sinai, Ashan Kulo. Il y a deux montagnes. On a connecté deux montagnes, le Har Amoria et le Har Sinai. Et d'ailleurs, dans l'histoire juive, effectivement, on a deux montagnes sacrées. On en a deux. Il n'y en a que deux des montagnes sacrées. Il y a le Har Amoria et le Har Sinai. Le Har Amoria, c'est la Akedat Yitzhak. Le Har Sinai, c'est la révélation de la Torah, d'accord, dans le désert. Grande différence entre les deux tout de même, très grande différence, c'est que le Har Amoria a bénéficié d'un statut de Kedusha pour l'éternité. Exactement. Alors que le Har Sinai avait un statut de Kedusha uniquement pour le moment de la révélation. Puisque je vous rappelle, le mont Sinai, avant la révélation d'Hachem, il n'est pas Kadosh. Tout le monde peut y monter, se balader, ce qu'il veut. Juste après la révélation, à la seconde d'après, il n'est pas Kadosh. Tout le monde peut y remonter, les animaux, les machins, c'est écrit dans la Torah explicitement. Il n'a pas de Kedusha intrinsèque, le Har Sinai, alors que le Har Amoria, il va être imbibé d'un degré de Kedusha qui est beaucoup plus intense que le Har Sinai. Horeb, c'est le Har Sinai.
Ah, c'est
bien sûr. C'est un surnom de Sinai. D'accord ? Donc on a deux montagnes sacrées. Maintenant, bien évidemment, quand nos Chachamim, alors honnêtement, la dracha, elle est incroyable, d'accord, de raconter comme ça qu'il y a deux montagnes, qu'on a juxtaposé le Har Amoria sur le Har Sinai, c'est honnêtement, c'est un chidouche incroyable. Mais quand on a un chidouche de ce genre, je vous rappelle, le but, c'est de chercher qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que nos Chachamim veulent nous dire ? C'est ça la question qu'on doit se poser, d'accord ? Parce que le geste de juxtaposer les deux montagnes, de coller une montagne sur l'autre, ok. Mais c'est pas ça qui est intéressant. En réalité, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que nos Chachamim veulent nous dire pour qu'ils aient eu cette idée incroyable de dire qu'il y a deux montagnes et qu'on a collé les deux montagnes et qu'il y a eu le Har Amoria et qu'il y a aussi le Har Sinai. C'est ça qu'on doit rechercher. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Et en plus, une fois qu'on aura dit, chercher, trouver ce qu'ils veulent nous dire, c'est d'essayer de comprendre. Lequel a été utilisé parmi ces deux montagnes ? Laquelle a été utilisée pour nous menacer ? D'accord ? Puisque si on reprend les mots du Passouk, on était Betartitahar, au pied de la montagne, dans le sens de en dessous de la montagne, et le mont Sinaï était plein de fumée. Donc ça voudrait dire que celui qui nous a menacés, c'est lequel ? Ça serait a priori le Har Amoria. Mais on va voir pourquoi. Alors voilà ce qu'on peut trouver comme explication sur la juxtaposition des deux idées.
Moi, c'était antinomique. Hein. On aurait pu être au pied du Har Sinai,
ouais.
Sous le Har Amoria.
On peut être au pied. Ben oui, du coup, ça revient à ça. Du coup, ça revient à ça. Parce que si tu dis Vaitiatsebu betartita har ve Har Sinai, ça veut dire que quand on était en dessous de la montagne, c'était pas le Har Sinai. C'était le premier Har. Et donc, le premier Har, ça serait Har Amoria. Donc, effectivement, ça serait cette configuration-là. Le Har Amoria au-dessus de nos têtes et le Har Sinai devant nous. Ce serait cette configuration-là. Har al-Gabehar, une montagne sur une montagne. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette juxtaposition. Première chose que j'ai trouvée très jolie également. Écoutez ça. Qui c'est qui dit ça d'ailleurs ? Hop. Le rabbi de Tzantz, la chassidoute de Tzantz, est dit comme ça. Behar Sinai kibalnu et Torah. Velu Behar Amorian et Kaditrak al Gabamis Behar. Donc on a deux montagnes sacrées. Sur le Har Sinai, on a reçu la Torah. Sur le Har Amoria, il y a l'épisode de la Akedat Yitzhak. Inan uroim shakadosh baruch hu bachar livnot bet hamikdash al Har Amoria veloho al Har Sinai. Où est-ce qu'Hachem va vouloir construire son temple? C'est pas sur le Har Sinai. C'est vrai, c'est surprenant pour dire, attends, mais s'il faut se révéler quelque part et créer un temple, construire un temple, bah, choisis le Har Sinai, c'est tout à fait logique. Tu t'es révélé pour donner la Torah sur le Har Sinai. Bah, construis ton temple sur le Har Sinai et fais en sorte que le Har Sinai ne fasse pas partie des frontières d'Israël, quoi, d'accord, c'est ça le, qui est derrière.
Sinai, il n'y a pas la notion de Sinai.
Aussi, bien sûr, ça c'est aussi l'Agmara. L'Agmara qui va nous dire, mais par ailleurs, l'Agmara qui va nous dire, c'est de là qu'apparaît l'antisémitisme. La haine des nations à l'égard du peuple d'Israël apparaît à partir du moment où il y a cette singularité du peuple d'Israël d'avoir reçu la Torah. Effectivement. Et donc, il nous dit, pourquoi alors c'est pas sur le mont Sinaï qu'il a construit le Beth Amikdash ? Kedé le Rotlanou, qui avodat Hashem, mitor me sirut nefesh, hi yoter gedola me esek a Torah atzma. On veut nous enseigner que finalement, la montagne la plus importante entre les deux, puisque c'est là que le Beth Amikdash va être construit, c'est le Har Amoria. Pourquoi le Har Amoria est plus important que le Har Sinaï ? Il nous dit, parce que le Har Amoria montre le degré ultime d'abnégation de l'être humain face à son créateur. Et ça, c'est plus fort, c'est plus intense que le simple fait d'étudier la Torah. Le Har Sinaï, c'est là où on a reçu la Torah. Mais recevoir pour recevoir, c'est pas suffisant. Recevoir pour dire, voilà, je l'ai, c'est là, d'accord, de temps en temps, je l'étudie, etc., c'est pas suffisant. La grandeur du peuple d'Israël, c'est pas tant uniquement d'avoir reçu la Torah, c'est d'avoir une messirut nefesh, d'être prêt au sacrifice ultime pour proclamer l'existence de Dieu. Et ça, quel est le geste justement qui vient montrer ce sacrifice ultime? C'est la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak montre la messirut nefesh de l'individu, qui est plus forte que le Matan Torah. Et donc là où il y a un lieu où HaKadosh Baruch Hu doit révéler sa présence de manière définitive avec le Beth Amikdash, c'est pas sur le Har Sinai. Le Har Sinai, c'était occasionnel parce qu'il fallait qu'il y ait un endroit. Mais en réalité, le Har Amoria est plus important, c'est pour ça qu'il va construire le Beth Amikdash là-bas. Mais alors, mais s'il en est ainsi, alors à quoi il sert le Har Sinai? Du coup, il n'avait qu'à tout faire sur le Har Amoria, il n'avait qu'à révéler la Torah sur le Har Amoria, et puis c'était réglé. Non, parce qu'on a une deuxième notion. C'est quoi la deuxième notion? C'est que certes, le Har Amoria vient te transmettre l'idée de don de soi, mais le Har Sinai vient porter la notion de l'humilité qu'il n'y avait pas dans le Har Amoria. Razak, on connaît la raison. On sait que parmi toutes les montagnes du désert, le mont Sinaï, c'est le plus petit. C'est le plus petit mont, c'est rien du tout, c'est minuscule ce truc-là. On pourrait se dire, attends, mais le lieu de la révélation de Dieu, il faut un truc grandiose, d'accord, spectaculaire, la plus haute des montagnes du monde, d'accord, pour la présence d'Akadosh Baruch Hu. Hachem veut nous apprendre que la Torah, elle appartient pas à l'orgueil. Elle appartient pas aux hautes montagnes. Elle appartient à la plus petite. Il fallait, oui, une montagne tout de même, parce qu'il fallait un lieu élevé par rapport à l'ensemble du peuple, mais il fallait choisir la plus petite pour te transmettre l'idée de l'humilité. Donc on a quoi ici? On a, en même temps, c'est pour ça qu'on colle les deux montagnes. On a la Messirut Nefesh et on a l'humilité. Et il nous faut les deux. On ne pouvait pas avoir que la Messirut Nefesh de la Akedat Yitzhak, bien qu'elle était essentielle, elle est plus forte que le Limud Torah. Oui, mais il nous fallait aussi une petite montagne. La petite montagne, c'est le Har Sinai. Et il fallait que ça soit dans le désert. Parce que dans le désert, la définition du désert, c'est que c'est un endroit dans lequel tout le monde marche. D'accord? Donc comme la Torah, elle n'est pas réservée à l'élite. Elle concerne l'ensemble du peuple, quel que soit ton niveau, quelles que soient tes capacités intellectuelles, etc. C'est un désert. Et en plus, il fallait l'humilité du Har Sinai. Autre raison, celle donnée par le Khatam Sofer. Il dit comme ça. Que représente véritablement le Har Amoria? Et il explique comme ça. Quand Abraham reçoit l'ordre d'aller sacrifier son fils, pour Abraham, cet ordre qu'il reçoit ressemble et comparé à ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah écrite. J'explique ce que je veux dire. La Torah écrite, c'est quelque chose qui est explicite. Il n'y a pas à se casser la tête pour comprendre. C'est écrit. Quand Dieu s'adresse à Abraham en lui disant « Prends ton fils pour le sacrifier », pour lui, c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas à faire de commentaires sur ce qui a été entendu. Il n'y a pas d'affaire de drachote, etc. Tu me demandes de prendre mon fils, je prends mon fils. C'est comme si je lisais un verset dans lequel il est écrit « Abraham, prends ton fils ». C'est comparé à ce qu'on appelle la Torah écrite. C'est la Torah révélée. C'est la parole de Dieu qui est révélée, qui est explicite. Ça, c'est pour Abraham. Abraham vit cet événement comme l'interprétation d'un verset de la Torah écrite. Par contre, Yitzhak, lui, comment est-ce qu'il vit cet événement? Pour Yitzhak, c'est comparé à de la Torah orale, le fait qu'il se laisse sacrifier. Qu'est-ce que j'appelle la Torah orale? La Torah orale, c'est ce qui n'est pas explicite. C'est ce qui est porté par l'interprétation des Chachamim, mais qui ne se lit pas dans le texte de la Torah. Yitzhak, lui, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu ne lui a pas dit de manière explicite, Yitzhak, va te faire sacrifier. Il n'y a pas écrit, il n'y a rien dit. Il ne lui a pas parlé à Yitzhak. Pourtant, Yitzhak accepte d'y aller sur la foi de la parole de son père. La parole d'Abraham est comparée à ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la Torah orale. Donc, pour Abraham, c'est comparé à la Torah écrite de sacrifier son fils. Il n'avait pas d'autre possibilité. C'était clair pour lui, il n'y avait pas de doute. Je devais le faire, je dois le faire. Mais Yitzhak, lui, il est encore plus grand que son père à ce niveau-là. Parce que lui, Dieu ne lui a pas parlé. Et pourtant, il a 37 ans et il accepte de se laisser sacrifier. Simplement sur la foi de son père. La foi de son père, c'est ce qu'on appelle la parole des Chachamim. La Torah orale.
Et Abraham avait aussi interprété la parole de Dieu.
Non, on nous dit non. Alors je sais de quel midrash tu parles. Mais on nous dit non. On nous dit qu'en réalité pour lui, c'était clair. Prends ton fils, ton unique, ton machin, ton Yitzhak, tu le montras en tant que Ola. La seule interprétation qu'il en fait, c'est qu'il pensait qu'il fallait vraiment le tuer. Ça, c'est son interprétation.
D'accord. À aucun moment, le couteau, tout ça,
c'est qu'il. Donc, l'interprétation, elle est sur le mot « monte-le en holocauste ». Elle est là, l'interprétation.
Oui.
Donc, certes, sur cette partie-là, en holocauste, lui, il s'est dit, c'est un sacrifice. Et donc, si c'est un sacrifice, il faut que je prenne le couteau.
Et c'est pas considéré comme une interprétation ?
Uniquement la fin. Okay. Mais prendre son fils, l'amener sur la montagne, avec une idée de don, que ça soit un sacrifice physique, ou bien simplement le fait de l'élever, ce geste-là, pour lui, c'est ce qu'il appelle la Torah écrite. Dieu me l'a demandé, explicitement.
Yitzhak, il a su qu'au dernier moment.
Oui, mais au dernier moment, quand Dieu dit un moment, c'est qu'il était déjà en train de monter sur la montagne, quand même.
Mais il avait vu cette présence divine avec son père.
Il a senti une manifestation de Dieu sur la montagne, c'est certain, déjà en bas,
oui.
D'accord. Mais il ne sait pas ce qui s'y passe. Il ne sait pas que c'est lui qui va être sacrifié par son père. Et sur la route, il demande à son père, « Papa, y a un problème. Tu me dis qu'on monte faire un sacrifice. » Mais il est où le mouton? Et là, c'est écrit, béni. Il y a écrit, béni, mon fils, c'est toi. En réalité, le sacrifice, c'est toi. Donc pour Yitzhak, c'est de la folie. Dieu ne lui a pas parlé. C'est simplement son père qui fait effectivement une interprétation et qui lui donne ce qu'on appelle, nous, une Torah orale. C'est ça, une Torah orale, c'est les Chachamim qui viennent interpréter un truc et tu dois avoir foi en leur parole. Et donc Yitzhak, lui, accepte, non pas en tant que Torah écrite, mais il accepte en tant que Torah orale. Et c'est pour ça qu'on nous dit que son sacrifice à lui est plus grand encore que celui qu'avait accepté de faire son père. Parce que pour son père, il n'y avait aucun doute, alors que pour le fils, on aurait peut-être bien pu dire, peut-être que tu te trompes, peut-être qu'il faudrait justement interpréter convenablement ce que tu as entendu comme parole, etc. Mais il n'a rien dit, il a accepté. À tel point que cet événement va s'appeler Akedat Yitzhak. C'est la ligature d'Yitzhak. C'est Yitzhak qui est mis en évidence, c'est pas Abraham. Pourquoi c'est Yitzhak? Parce que son niveau d'abnégation est encore plus grand que celui de son père. Parce que pour lui, il n'a pas eu la parole de Dieu dans ses oreilles. Il a eu simplement celle de son père à ses oreilles. Donc, dit le Khatam Sofer, le mont Moria, ça représente la Torah orale. la force de l'abnégation d'un individu, Yitzhak, pas Abraham, Yitzhak, en tant qu'acceptation d'une parole des Chachamim, de la Torah orale. Le mont Sinaï représente dans son essence la Torah écrite. C'est là où on va voir les commandements. Les commandements, les 613 commandements, c'est comparé à la Torah écrite. C'est ce que Dieu va dire directement à Moshe Rabbeinu. Et donc, au moment du Matan Torah, qu'est-ce qui va se passer ? Hop ! On va faire coïncider les deux notions. Torah orale, Torah écrite. Le Har Amoria se déplace et il se connecte avec le Har Sinaï. La Torah écrite orale reçue par Yitzhak et la Akedat Yitzhak et la Messirut Nefesh, etc., vient se connecter avec la Torah écrite, avec l'humilité du Mont Sinaï, etc. C'est pour ça qu'on a les deux. Et la dernière idée, c'est que le Har Amoria, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du peuple juif en particulier, qu'il y a la notion du Naaseh Venishma. Avraham, c'est lui le premier qui découvre l'existence de Dieu. Et il comprend que Dieu ne veut pas de sacrifice humain comme le faisaient tous les idolâtres de l'époque. C'est lui qui le proclame pour la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis pas mal de temps. D'accord ? C'est lui qui le proclame, c'est lui qui défend cette idée, etc. Coûte que coûte. Il a été prêt à se sacrifier pour défendre cette idée. Et voilà maintenant qu'un beau jour, Dieu lui dit « Tu vas prendre ton fils, tu vas le sacrifier. » Comment ça ? Tu peux pas me dire un truc pareil ? Je n'arrête pas de dire le contraire, que tu es un Dieu qui est plein de miséricorde. Tu ne veux pas la mort des enfants, tu ne veux pas la mort de n'importe quel individu, tu ne veux pas la mort des hommes pour être à ton service. Et pourtant, Avraham ne dit rien. Il prend son fils, il l'attrape, il est prêt à le tuer, d'accord, à le monter sur la montagne, etc. Et nos maîtres nous disent c'est le premier Naaseh Venishma. C'est le premier, je fais, même si je ne comprends pas. Naaseh Venishma. Et donc, puisque ce lieu-là représente pour la première fois dans notre histoire la notion du Naaseh Venishma, quand Dieu va nous demander de recevoir la Torah et que nous allons dire Naaseh Venishma, en fait, on s'inspire de ce qu'Abraham avait déjà inculqué dans les gènes du peuple d'Israël, au moment du Har Amoria, la notion du Naaseh Venishma. Et donc, on prend le Har Amoria, on le rapproche du Har Sinaï, et on dit aux enfants d'Israël, on leur met sur la tête le Har Amoria, et on leur dit, hey, enfants d'Israël, regardez ce truc-là. Ce Har Amoria, c'est là où Abraham, il a dit Naaseh Venishma, la première fois de l'histoire de l'humanité, il a pris son fils, il a sacrifié, il était prêt à le sacrifier, alors qu'il n'a rien compris, qu'il ne comprenait pas pourquoi et comment c'était possible de faire un truc pareil. Et donc, vous, maintenant, vous devez vous mettre dans le même état d'esprit qu'Abraham, lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils. Il faut un Naaseh Venishma aussi pur que Avraham sur le Har Amoria. Et voilà pourquoi on connecte les deux montagnes.
L'ordre de Hachem à Noé, ça ne compte pas ?
Non, parce qu'il n'y a pas encore la on n'a pas resserré avec le clan Israël. On n'est pas sur le clan Israël. On est sur la collectivité de l'humanité avec Noar. Et si tu parles de la construction de l'arche, c'est ça que tu parles ? La construction de l'arche, ce n'est pas vraiment un Naaseh Venishma. Pourquoi ? Parce que là-bas, Hachem, il lui a dit « Je vais détruire l'humanité. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Noar, quand il a construit son arche, il n'était pas vraiment dans le Naaseh Venishma. Il était plutôt dans « On va tous mourir et j'ai la chance d'avoir le secret et d'avoir la confidence et donc je construis une arche. » Ce n'est pas vraiment un Naaseh Venishma qu'on peut mettre au même titre qu'Abraham qui est prêt à sacrifier son fils alors qu'il ne comprend absolument pas comment Dieu peut lui demander un truc pareil. Donc le premier Naaseh Venishma qui concerne le clan Israël et qui est vraiment pur, c'est celui de prendre son fils pour le sacrifier. Et donc en fait, on veut menacer, mais en vrai, vous avez compris maintenant que ce n'est pas une menace. On a simplement rapproché ces deux notions-là en disant aux enfants d'Israël, c'est ça qu'il faut. Si vous n'êtes pas en mesure d'être dans le même état d'esprit, même pour la Torah orale, puisque le Har Amoria c'est la Torah orale, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, en fait vous êtes mort. Parce qu'une Torah écrite sans Torah orale, c'est la mort. C'est incompréhensible. C'est pas ça qui va vous faire développer quoi que ce soit comme spiritualité. Il n'y a rien de suffisamment grand dans la Torah écrite si elle n'est pas accompagnée par sa Torah orale. Et donc effectivement, celle qui était au-dessus de nos têtes, Betarti Tahar, le Har, comme le Baal HaTourim nous dit, c'est le Har Amoria. Et le Har Sinaï qui était lui face à nous, il était plein de fumée, etc. Donc du coup, on voit ici, effectivement, pourquoi est-ce que nos Chachamim veulent absolument faire coïncider ces deux notions de Har Amoria et de Har Sinaï. Question? Chazak. Chazak Baruch.